Comment être un bon parent? Une question qui peut virer à l'obsession. L'école à la maison, la fessée, les régimes alimentaires, autant de sujets qu'on retrouve régulièrement analysés à la télévision, dans les magazines féminins et dans des ouvrages de pédagogues. Mais alors, y aurait-il par conséquent de mauvais parents? En France, il faut attendre 1970 pour que la puissance paternelle laisse place à l'autorité parentale et ouvre ainsi une place à la mère. Depuis, de nouveaux modèles familiaux ont émergé. Familles monoparentales ou recomposées, légalisation de l'adoption pour les couples homosexuels, plus récemment, possibilité pour les couples lesbiens et les femmes célibataires d'avoir recours à la procréation médicalement assistée. La question familiale, c'est une affaire d'État depuis la fin du 19e siècle. Depuis maintenant une vingtaine d'années, les politiques publiques françaises prétendent soutenir le travail d'éducation des parents. Est-ce que ça signifie qu'il faut aider les parents à être de meilleurs parents? Faudrait-il leur faire la leçon à l'image de la loi Ciotti qui a supprimé un temps, de 2011 à 2013, les allocations familiales aux parents d'enfants trop absents à l'école? Ces politiques familiales, elles s'expriment à travers l'État, la caisse d'allocations familiales, les collectivités territoriales, mais également des associations. Et parmi les mesures, on peut autant citer la PAJE, la prestation d'accueil du jeune enfant, que la carte famille nombreuse ou encore l'allocation de rentrée scolaire. Alors comment ont évolué ces politiques au cours de l'histoire et à destination de quels parents d'un point de vue social? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Notre invité pour cette première émission de la rentrée, c'est Claude Martin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue spécialisé dans les politiques familiales, vous dirigez des recherches au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, et vous êtes titulaire de la chaire Enfance, Bien-être et Parentalité à l'établissement des Hautes Études en Santé Publique. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour.
Colette, c'est à vous.
Claude Martin, vous avez publié notamment « Être un bon parent, une injonction contemporaine ». Vous avez mis « bon parent » entre guillemets. Alors tout compte fait, c'est quoi être un bon parent en 2018?
Alors si j'ai mis entre guillemets, c'est que c'est une expression que j'emprunte et que ça n'est pas un manuel. Et qu'évidemment, je ne veux pas tromper le lecteur en évitant de leur laisser penser que c'était un guide pour être un bon parent. Si j'ai utilisé cette expression, c'est en effet qu'il y a quelque chose comme un regain d'attention sur ce qu'est être un bon parent. Autrement dit, ça traduit à la fois une inquiétude. Je pense que d'un côté, il y a de la demande du côté des parents qui sont de plus en plus lucides sur ce que devrait être leur bon comportement. Donc ils sont surinformés, il y a des blogs, il y a des sites, il y a des revues, il y a des manuels, il y a un marché. Et de l'autre, il y a probablement une volonté de structurer cette offre du côté même des pouvoirs publics. Donc il n'y a pas que les marchands qui vendent du conseil, il y a aussi des pouvoirs publics qui s'inquiètent et qui aimeraient bien éviter toute une série de problèmes que génèrent les mauvais parents.
Mais l'idée de s'occuper des parents ne date pas d'hier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui se passait au 20e, au 19e, la position de l'Église, des savants, des médecins sur ces questions? Et pourquoi est-ce qu'ils se sont autant intéressés à la famille et à l'éducation?
Alors, effectivement, on peut remonter loin. Peut-être même qu'on pourrait, si on avait le temps, remonter à la Rome antique, puisque des politiques populationnelles, il y en a eu depuis fort longtemps, mais on est surtout structuré par un moment de notre histoire récente, qui est évidemment la Troisième République, qui à la fois, en termes de santé publique, conçoit l'hygiénisme, les enjeux de santé de la population, qui conçoit aussi, en effet, le partage qu'il faut établir entre le rôle de l'État, le rôle des savants, le rôle des experts et le rôle des proches, le rôle des parents. Donc ça, c'est vrai qu'on doit d'abord dire que ça n'est pas nouveau. C'est même vraiment dans ce sens que je parle, moi, de regain ou de revival d'une très vieille histoire. Si on a commencé à se préoccuper du côté des pouvoirs publics de ces questions, ça a d'abord été au départ pour des enjeux de natalité, de puissance de la nation. On mesurait d'ailleurs la force des nations à la taille de sa population. Donc, à un moment où, au tournant du 20e, on réalise, à la fin d'un 19e où il y a pénurie démographique, où la France ne cesse de se comparer en taille de population à des pays voisins et souvent ennemis, que ce soit d'ailleurs l'Angleterre autrefois et l'Allemagne et la Prusse à ce moment-là, on a une vraie préoccupation. Les Français font moins d'enfants. On a des enjeux de mortalité infantile aussi. Et puis on a des enjeux de qualité de la population. Hein. L'eugénisme est aussi né à cette époque.
Christian Lebar.
Alors quand on réfléchit, comme vous le faites, sur l'histoire de l'État-providence, au fond, ce type de politique est tout à fait passionnant parce que on est quand même sur la gouvernance de l'intime, la gouvernance du privé. Mmh. Voilà, c'est plus difficile de gérer les façons d'être parent du point de vue de l'État-providence que de gérer le commerce ou les choses publiques. Donc quels sont... Alors effectivement, ça, on peut remonter à l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, hein, du moment où ces préoccupations-là commencent à devenir centrales, où c'est plus la nature au fond qui fait le parent, mais où ça devient. Alors, quels sont un peu les outils dont l'État-providence a usé pour essayer de peser sur les façons d'être parent? C'est quoi? C'est les allocations familiales?
Alors, voilà, ça va commencer probablement avec... Il y a un peu deux volets. Il y a un volet, quand je disais populationnel et de santé, c'est la lutte contre la mortalité infantile, c'est l'hygiène publique, c'est la gestion des miasmes, des eaux sales, etc. Donc c'est tout un volet qui concerne l'aspect populationnel et santé générale de la population. Et puis il y a un volet plus intime, en effet, qui consiste à faire comprendre aux parents qu'ils peuvent être épaulés pour un travail qui est jugé en effet primordial, le capital humain, et d'abord mettre au monde. Donc cette incitation, ça va naître non pas seulement d'ailleurs du côté de l'État, ça va d'abord naître du côté de l'entreprise, hein, de l'entreprise patriarcale, de la grande entreprise patriarcale, dans les mines, la chimie et tout ce qu'on a appelé au fond ce moment de l'entreprise patriarcale où on estime juste de donner un sursalaire à quelqu'un qui a des bouches à nourrir. C'est comme ça que naissent au fond les allocations familiales. Elles vont naître aussi du côté de l'État pour un certain nombre d'agents publics, dont d'abord les militaires ou les marins publics, hein, qui eux aussi méritent au fond d'avoir une compensation du fait d'avoir des bouches à nourrir. Et puis de fil en aiguille, bien entendu, on a estimé qu'il fallait généraliser ce système. Il fallait l'ouvrir à toute la population parce qu'il y avait cet enjeu de natalité. Donc le natalisme a été un moment très important où on a au fond conjugué deux courants d'idées qui s'opposaient précédemment, qui étaient d'un côté les chrétiens, les catholiques et le familialisme. Au fond, une toute autre cosmogonie, on pourrait dire, de représentation qui dit la famille, c'est la clé de voûte de la société, c'est la première cellule. C'est la première cellule de la société et il faut la défendre en tant que telle. Mais là, on défend l'institution familiale. De l'autre côté, on a, au fond, les hygiénistes, on a les républicains, on a les natalistes, on a ceux qui veulent appliquer les principes de Pasteur et qui vont faire en sorte que on promeuve, au fond, les naissances. Et on a une espèce de conjonction où, d'une certaine façon, ces deux mouvements s'adoubent presque par une politique de la famille qui dit son nom. Une politique d'État qui fait de la famille à la fois une institution phare et de la natalité l'objet. C'est-à-dire, voilà. Et on va retrouver ça tout au long de l'histoire. Hein. Quand Mitterrand dit « je n'ai pas le même discours que la droite sur la famille en 81 », en même temps, il dit « la famille est une affaire d'État parce qu'on est préoccupé de notre population ». Et donc, c'est juste de considérer que non, ça n'est pas une propriété de la droite que de parler famille. Ça peut être aussi un enjeu de gauche. Donc, on voit bien qu'il y a une histoire très longue qui tourne autour de quelle est la part de l'État, quand est-ce que l'État se préoccupe de la famille. Et si je peux faire un petit ajout là-dessus, pour que la famille puisse être une affaire d'État, il faut évidemment avoir une histoire propice à un tel développement. Et c'est ce qui a fait qu'en Europe du Sud ou dans tous les pays qui ont connu des régimes totalitaires, c'est une patate chaude. C'est très délicat parce que c'est de tristes mémoires. Toutes les fois où l'État s'est préoccupé de cette affaire, On a eu des régimes, au fond, comme le nazisme, ou plus tard, comme le salazarisme, ou comme le franquisme, qui, en effet, avaient un discours et une idéologie à propos de la famille qui sont elles souffrent. Et on a eu beaucoup de peine à retirer ces vieux sédiments pour dire, oui, l'État peut se préoccuper de la famille sans avoir un discours, au fond, à la fois conservateur et dangereux, puisque c'est bien le mot.
Mais donc, la notion de... Là, vous venez de répondre côté État, côté politique publique,
oui.
Et comment ça a évolué. Longtemps, côté parents, ça a été de faire des enfants et de bien les nourrir, de pouvoir au moins les nourrir. Là, maintenant, la notion de bons parents, puisque c'était le début de notre... et le titre d'un de vos ouvrages... Ça a considérablement évolué, notamment au tournant des années 60-70.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire, on verra longuement avec vous, toutes les nouveautés et les conséquences et pour les gens et pour les enfants, et aussi pour la vie en société, et aussi l'émergence de cette notion, la parentalité.
Oui.
Avant, on parlait des familles, et tout d'un coup, on a parlé de la parentalité, notion qui fait l'objet d'une définition officielle en France en 2011. C'est quoi la parentalité ?
Alors, la parentalité, c'est vrai que c'est un concept qui est vraiment tout à fait nouveau. Je vais faire le lien quand même avec ce qu'on vient de commenter,
oui.
Puisque il se trouve que dans les années 30, hein, pour rester encore dans ces moments, on va avoir la création de quelque chose qui n'est pas anodin, qui s'appelle l'école des parents. C'est un contexte. L'école des parents est une association qui existe encore aujourd'hui. Et au fond, cette école des parents est une forme de résistance à cette intrusion des pouvoirs publics et des hussards de la République que sont les instituteurs sur le terrain de la fonction parentale. L'école des parents dit au fond, non, l'État n'a pas à se mêler de tout car nous avons un rôle propre et nous ne pouvons pas être substitués par des agents publics. Ils résistent. Ils résistent avec des pédagogues, ils résistent avec des psychiatres, des pédopsychiatres, ils résistent avec des psychanalystes en ce temps-là, ils résistent avec des mouvements catholiques et ils créent en effet une école des parents, c'est-à-dire des parents qui enseignent les bonnes pratiques à des parents. Nous avons une responsabilité, elle nous est propre, nous ne devons pas nous laisser en fait envahir par des prescriptions externes et l'école des parents résiste. Il y a du conservatisme là-dedans, la meilleure preuve d'ailleurs c'est que la créatrice de l'école des parents, c'est aussi celle qui écrira le chapitre dans l'ouvrage sur le programme de la Révolution nationale de Pétain à propos de la famille. Donc évidemment, la racine est un peu, si j'ose dire, problématique. Mais ça va évidemment beaucoup évoluer. On ne peut pas attribuer à l'école des parents d'aujourd'hui des vieux relents de cette époque. Mais c'est un fait. Alors, parentalité, ça vient beaucoup plus tard. Et effectivement, ça n'est pas anodin. Quand on parlait de la famille, on parlait de la famille, de l'institution d'une certaine façon. Et on parlait d'une famille qui avait des formes relativement et des contours à peu près homogènes. Parce que l'après-guerre, les fameuses et supposées 30 Glorieuses ont fabriqué un espèce de modèle assez unique dans lequel papa, maman mariés ensemble élèvent leurs enfants dans un même ménage et tout ça est à peu près stable, mais très stable.
Avec comme souci la santé et l'employabilité pour comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire...
Ça, c'est des mots d'aujourd'hui,
oui,
quand même.
Pouvoir aller travailler, quoi.
Exact. En tous les cas, des parents qui ont une fonction de socialisation et qui ont une structure extrêmement stable. On divorce peu, on se marie très tôt, on se marie tous, presque, etc. Et on a plutôt beaucoup d'enfants. Enfin, en tous les cas, des familles nombreuses, il y en a, et le niveau de fécondité est élevé. Donc, on a, au fond, la rançon, diront certains, de la politique de la famille du premier XXe siècle. Hein, ça marche. Voilà. Et dans les années 50, d'ailleurs, le montant qu'on attribue à cette histoire est plus important que toutes les autres branches. 55% des dépenses de protection sociale sont des dépenses de la politique familiale. C'est donc considérable, puisqu'aujourd'hui, c'est 7%. Parentalité, ça intervient à peu près au même moment en Europe, dans les années 90. C'est un néologisme, ça n'existait pas avant, on avait pourtant un lexique, on pouvait parler de la parenté, on pouvait parler de la maternité, de la paternité... on avait au fond tout le lexique de la parenté à notre disposition et on a besoin d'un mot pour dire un truc qui, pour l'instant, n'est pas très précis. Et c'est assez curieux de voir que dans d'autres langues, on fait la même chose, puisque en anglais, on fait aussi le même truc. On invente « parenting ». Au fond, on transforme un nom en verbe pour parler des actes des parents. Et c'est même encore plus précis, c'est-à-dire une question qui est ce qui nous préoccupe, c'est ce que font les parents, ça n'est pas tellement qui est le parent. Alors qu'en France, parentalité, c'est un peu les deux choses. Parler des parents, parler en termes de parentalité, c'est se demander qui peut prendre la fonction, qui n'est pas nécessairement le géniteur. Du coup, on voit bien qu'on a inventé ce mot pour parler des formes ou de l'exercice marginal de certains de la fonction parentale. On commence par en parler pour des familles à part, des familles monoparentales, on parlera de la monoparentalité, puis on parlera dans les familles recomposées de la beauparentalité, puis on parlera de la grand-parentalité, puis aujourd'hui on parle de l'homoparentalité. Donc on a utilisé ce mot pour parler de la fonction parentale exercée par des agents qui ne sont pas nécessairement les géniteurs.
Donc sur fond de remise en cause ou de délitement des rôles familiaux traditionnels.
Ou d'extension.
D'extension.
Parce que ça peut être aussi une revendication. D'une certaine façon, quand on a parlé des familles monoparentales, c'était une conquête. C'était
reconnaître le statut. Parler de parentalité, c'est remettre en cause le statut, par exemple, de père de famille qui était acquis une fois pour toutes. C'est dire, il y a de la parentalité, ça désigne une relation, la parentalité.
Voilà.
Par opposition au statut qui en quelque sorte, induisait implicitement la relation sans que celle-ci soit interrogée.
Ouais, c'était une fonction, en effet. C'était un statut. Mmh. Et alors que là, on a une extension du périmètre. Et du coup, ce mot, il intervient, on est obligé de se pencher sur quel est le contexte. Pourquoi avons-nous besoin ? Qu'est-ce qui se passe pour que ce mot nous permette de répondre à un problème ? Alors, le problème, c'est en partie celui qu'on vient de dire. Les familles changent, les fonctions parentales évoluent, et il y a au fond une extension du périmètre, parce que beaucoup d'agents sont susceptibles d'eux. Et puis d'une certaine façon, quand c'est défendu, c'est aussi pour dire il faut un village pour faire un enfant. Enfin, on est toute une communauté, on est nombreux au fond à socialiser l'enfant, il n'y a pas que les parents. Ça, c'est la version, j'ai envie de dire, positive de l'affaire. Mais il y en a une autre. Et l'autre, c'est que, évidemment, c'est la dénonciation de quand les parents ne font pas le boulot correctement, alors on paie collectivement la facture. C'est-à-dire l'idée que ce mot est intervenu dans un contexte, en France en particulier, où on ne cessait de commenter quoi ? Eh bien, c'était la montée de la délinquance, les parents qui ne font pas le boulot, les parents qui n'envoient pas à l'école, la suppression des allocs, et j'en passe et des meilleurs. C'est-à-dire un moment où on a envie de sanctionner les mauvais parents.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction liée au fait que le terme parentalité est plutôt connoté, disons, classe supérieure urbaine, etc. Et de fait, il renvoie, ce que vous venez de dire, à un problème qui est vieux comme le monde, c'est classe laborieuse, classe dangereuse, et les pauvres ne savent pas s'occuper de leurs enfants.
Tout à fait. Tension, là. Cette tension, il n'y a pas de raison d'ailleurs que ça ne soit pas là, puisque c'est un enjeu de lutte. En somme, la parentalité, comme les interprétations des changements familiaux, sont des enjeux de lutte. Et donc, l'interprétation de ce qui est en cause est un enjeu de lutte. Donc, on retrouve évidemment cette bataille sur la prescription. C'est là où on retrouve le être un bon parent. Hein. Être un bon parent au sens de, évidemment, l'écueil, ce sont les parents qui ne font pas correctement leur travail. Ce qui suppose d'ailleurs que nous ayons une sorte de tableau de bord de ce que sont les bonnes pratiques et les bonnes conduites, qu'on ait une vision à peu près organisée. Donc c'est là où on rencontre la question des experts. Et c'est là où on retrouve la question du marché, de l'offre de conseil, qui, là, vous l'avez dit, n'est pas non plus nouveau. Cette offre est une très vieille chose, et même c'est une offre formidablement développée depuis le docteur Knock, Hein, on est, moi, je suis des années 50. Dans les années 50, on était une génération où, bon, avec des gradients sociaux, hein, on avait entendu de ce que le best-seller du Dr Knock aux États-Unis avait permis de délivrer comme conseil pour élever l'Amérique, et qui devenait élever d'ailleurs le monde, hein, puisque nous étions sous l'influence, j'ai envie de dire, de ces conseils américains dans les années 50 pour faire nous-mêmes correctement le boulot. Donc c'est une très vieille aventure que de développer ce marché du conseil pour faire en sorte que les parents fassent le mieux possible ce travail compliqué. Et vous voyez bien que c'est là où on rencontre une sphère autour de la parentalité qui n'est pas c'est bien, c'est mal, c'est une bonne, c'est une mauvaise chose. Non, c'est une question. C'est une question, c'est un problème, et ça suscite une mobilisation d'énergie politique, médiatique, évidemment scientifique, avec des luttes et des controverses tout à fait épineuses, hein, très importantes. Je crois que ça, c'est peut-être un point sur lequel il faudra que nous venions. Il y a des controverses. Non, les gens ne sont pas d'accord, y compris dans la sphère des experts.
Un des grands changements de toutes ces dernières décennies, c'est ce que la sociologue Irène Terry a appelé le démariage. 9% de divorces en 45. Aujourd'hui, globalement, c'est stabilisé à 40, un peu plus de 44%, etc. Ce qui m'a frappé en lisant votre livre, c'est que l'essor des divorces, ça fait un modèle de couple démarié qui devient comme une norme, c'est-à-dire que et la loi, et l'entourage, et la société encouragent un couple, je cite, où responsable, paritaire et négocié. Ce sont des gens qui se sont quittés parce qu'ils ne s'entendaient pas et on leur demande de s'accorder. Et ça devient comme une norme pour les couples et les familles traditionnelles. Expliquez-nous ça.
Alors, d'abord, dire que l'exemple du taux de divorce est un des premiers exemples de ce qu'on pourrait appeler la controverse scientifique qu'on peut avoir autour et à propos des changements familiaux. L'indicateur qui gagne la bataille est un indicateur trouble, puisqu'on parle d'un indicateur du divorce qui rapporte le nombre des divorces d'une année au nombre des mariages de la même année. Donc, effectivement, on passe de 9 à 45%, on est même monté à 50%. Hein, puis ça a redescendu un peu. Mais sauf qu'il y a du mariage dans votre taux. Plus le mariage baisse, le dénominateur baisse, plus le numérateur monte, plus l'indicateur monte. Effectivement, donc c'est exponentiel. On finit d'ailleurs par fabriquer une espèce de représentation totalement fausse, qui consiste à penser qu'on a une chance sur deux de divorcer le jour de son mariage. Et c'est pas vrai. C'est-à-dire, l'indicateur moins trouble, c'est l'indice brut de divorcialité qui rapporte le nombre des divorces à 1000 habitants. Celui-là est beaucoup moins spectaculaire, hein, évidemment. Et donc, on n'en parle pas. Mais il faut savoir que la même réalité, je vous parle de la même réalité française en vous disant, aujourd'hui encore, la majorité des enfants, même 80% des enfants mineurs, vivent avec leurs deux parents mariés ensemble. Alors là, vous avez dit, attendez, là, il y a un truc. Qu'est-ce qui se passe ? On me parle donc de la même chose alors qu'on vient de me donner un quasi 1 sur 2. Et là, tout d'un coup, j'ai 80% des enfants mineurs qui vivent avec leurs deux parents mariés. Voilà le genre de controverse qu'on pourrait commenter à loisir. Alors maintenant, sur votre question, c'est vrai qu'il y a une norme qui s'est érigée progressivement, consistant à estimer que le couple peut ne pas être stable, on est parent pour toujours. Et donc, on se doit de négocier, et on a donc un modèle, au fond, une sorte d'idéal du divorce, qui est de se mettre d'accord sur les conséquences de notre décision. Il y a d'ailleurs un film en ce moment qui est sorti, qui fait commenter beaucoup, qui buzz. On m'a appelé d'ailleurs il n'y a pas longtemps pour le commenter. Je ne l'ai pas vu, donc j'ai fait de mon mieux, mais j'irai le voir. Puisque c'est un arrangement post-divorce dans lequel, au fond, hein, on a conçu un appartement dans lequel on va de chaque côté vivre avec les parents au milieu.
Sont les chambres
des enfants. Alors, Je pense que là où vous avez raison, ça veut dire que déjà, on a érigé un modèle, ça n'est pas la première fois qu'on le fait, qui correspond à un ethos de couche moyenne éduquée pour l'ensemble de la population. Quand on voit que dans les procédures de divorce, que j'ai beaucoup fait moi à l'époque où je travaillais sur le divorce, il y a une disparité de la part du consentement mutuel et du divorce pour faute à l'époque qu'on l'appelait encore, socialement parlant. Et que donc... les attentes de justice des uns n'étaient pas les attentes de justice des autres. Même chose pour la médiation familiale. Ouais, ouais. La médiation n'a pas de public, puisque potentiellement elle s'adresse à des individus qui ont un modèle de, du contrat et de la capacité de négocier entre eux. Donc c'est leur modèle qu'on voudrait leur proposer. Alors que ceux à qui on l'adresse sont ceux qui disent « nous on veut une justice », c'est-à-dire identifier un coupable et un gagnant. Voilà, une attente de justice qui désigne celui qui a commis effectivement la faute. Donc là, il y a vraiment, vous avez raison de le dire, une prescription normative, couche moyenne éduquée, un modèle qui est difficile à tenir d'une certaine façon. Et en même temps, je terminerai juste là-dessus, en même temps, ce qui est vertueux, c'est qu'on a peut-être là réalisé que le problème dans la séparation et le divorce, ça n'était pas le divorce. Hein, comme on l'a souvent affublé, vous savez, on a même inventé une catégorie qui n'a pas de sens, qu'on appelle les enfants du divorce. Mmh. Les enfants du divorce ne sont pas nés du divorce, ils sont nés d'un couple uni. Donc, ils ont connu le divorce de leurs parents. La réalité, c'est que ce qui pose problème, c'est le conflit. Donc, voilà pourquoi, au fond, ce modèle émerge, c'est qu'on a réalisé que les dégâts, c'était le conflit. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup défendu à un moment donné qu'on compare correctement les choses en disant quels étaient les effets du divorce. Mais regardons aussi les effets du non-divorce quand il y a le conflit. C'est beaucoup plus dangereux encore qu'on laisse des enfants grandir toute leur enfance avec un couple dans le désamour. Vous voyez, au 19e, ils avaient déjà trouvé cette solution, d'ailleurs, en disant, attendez, il faut arrêter ça, arrêter les dégâts. C'est une guerre conjugale qui va véritablement pourrir l'existence des enfants.
Mais au fond, on a l'impression, en vous écoutant, que la montée en puissance des normes qui structurent la parentalité, avec tous les enjeux, etc., se fait dans un contexte qui est celui de du relatif déclin des normes qui définissent et la conjugalité et la famille. C'est-à-dire, au fond, il y a aujourd'hui davantage de modèles familiaux que par le passé, davantage de modèles de conjugalité, mais dans cet assouplissement, certains diront délitement, enfin, etc., du coup, on se raccroche à la parentalité qui serait voilà, le moyen qu'aurait trouvé notre société pour ne pas que les enfants soient... élevé de façon trop éclatée.
Alors peut-être, sauf que là encore, on part d'un postulat qui est que on est encore un peu attaché à des catégories qui ne sont pas obsolètes, mais qui sont quand même dépassées, consistant à essayer de trouver un modèle. Quand on dit qu'il y en a trop, on pense qu'on manque d'un modèle. Donc il y a ceux qui vont dire ça se délite. Et puis ceux qui sont plutôt du côté de il faut éviter un modèle parce que justement on a une diversité. Je pense que ce qui est en train de se jouer, c'est surtout qu'on réalise de plus en plus qu'il y a des trajectoires familiales plus complexe. D'ailleurs, vie familiale n'est pas...
C'est le sociologue qui parle, mais quand on regarde tous ces manuels, tous ces guides, comme vous disiez tout à l'heure...
On y reviendra.
Il y a quand même l'idée d'un univers de normes qui est cohérent, qui est prescriptif, qui stresse les gens.
Oui, absolument.
On y reviendra après une pause musicale. On va écouter Be Proud of Your Kids, interprété par Melodies Echo Chamber. Every choice, every song, show.
la radio est finie. Voilà.
Mélodies Echo Chamber à l'instant sur Canal B avec le titre Be Proud of Your Kid. Vous écoutez Chercheurs en Ville et aujourd'hui nous recevons Claude Martin pour parler de politique familiale. Si on peut observer un regain d'attention sur ce qu'est être un bon parent, l'offre de conseils en la matière n'est pas quelque chose de nouveau. Face à la demande des parents avec des questionnements multiples, souvent concentrés autour de la réussite à l'école, les pouvoirs publics cherchent à structurer l'offre de conseils. Et là encore, l'intérêt de l'État pour la question ne date pas d'hier. L'histoire des politiques populationnelles comporte un moment central sous la Troisième République. L'objectif à l'époque, c'est avant tout d'encourager la natalité, signe de puissance d'une nation. Dans les années 1990, apparaît un nouveau terme avec le concept de parentalité, une fonction qui émerge en même temps que les formes familiales s'étendent et se complexifient. À présent, nous allons nous intéresser aux cases à cocher pour être couronnés bons parents, une obsession liée à un besoin permanent de validation des choix éducatifs par les parents. À l'étranger, des programmes privés promettent ainsi de donner des réponses précises sur les comportements à adopter en toute situation. Pour en parler, Claude Martin, sociologue spécialisé dans les politiques familiales. Il dirige des recherches au Centre national de la recherche scientifique et est titulaire de la chaire Enfance, bien-être et parentalité à l'établissement des hautes études en santé publique. Il répond aux questions de Colette David et Christian Lebar, tout de suite dans la deuxième partie de Chercheurs en Ville.
Claude Martin, dites-nous quelles sont les bonnes pratiques recommandées actuellement.
Alors, moi je veux bien essayer de faire ce... Vous me prenez à contre-pied, puisque de toute façon, je pense que ce qui compte véritablement, je vais vous d'abord vous donner mon point de vue, et puis après je vous parlerai des prescriptions, parce que je n'en ai aucune en fait. Moi je crois beaucoup au fait que... de génération en génération, les parents expliquent souvent à leurs enfants devenus adultes que c'est pas facile, qu'ils ont fait de leur mieux et qu'ils ont beaucoup improvisé et qu'il y a toute chance qu'on fasse la même chose. Et on constate évidemment avec le temps que c'est ce que nous avons fait nous aussi. Donc je crois beaucoup que ce que certains appellent le métier de parent est une aventure, est une longue improvisation. Et que on a des bonnes raisons a posteriori de penser qu'on a échoué autant que on en a de penser que ça on l'a réussi. Du coup, je ne réponds pas à votre question parce que je n'ai pas moi de conseils à donner, sauf à laisser de la spontanéité. Et donc, évidemment, je suis dans l'exact contre-pied et je sors de mon rôle d'analystes et de sociologues, de ceux qui vous disent qu'ils vont répondre à votre question. Les questions qu'on trouve, il suffit d'allumer Internet si on l'a, et puis d'aller sur les blogs. Hein. Est-ce que, à quel âge il faut que je retire la suce de la bouche de mon bébé? Mon fils a commencé à fumer du shit, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? On est tout le temps en train de se fâcher à table, est-ce qu'il vaudrait mieux que nous ne partagions plus les repas? Et j'en passe et des meilleurs, c'est sa première cigarette, le bébé, est-ce qu'on peut le laisser dans le lit et jusqu'à quand? Enfin, vous voyez, la demande des parents est une demande totalement, totalement morcelée. En petites questions minuscules qui sont toutes agglomérées et qui cherchent à obtenir une réponse précise. Hein, est-ce qu'on est bon là? Est-ce qu'on n'est pas bon? On est assez bon? Pas assez? Vous voyez?
Ils sont très inquiets, ils sont très demandeurs et très inquiets.
Ça veut dire qu'ils ne savent plus exactement ce qu'il faudrait. Et évidemment, cette inquiétude, ou en tout cas, cette demande de conseil rencontre une offre qui n'est pas avare de prescriptions. J'ai entendu de ces coachs de parents dire qu'il suffirait pratiquement de les regarder aller vivre et être avec leurs enfants pour comprendre ce qui est le meilleur modèle possible. Faut quand même avoir un certain ego pour réussir, si vous voulez, à monter sur les épaules de tout le monde en disant, bah, écoutez, mais suivez-moi, mais regardez comment sont mes enfants. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils performent à l'école, ils seront probablement l'élite de la nation demain, etc. Vous voyez, ça, c'est extrêmement inquiétant. Si vraiment on a des experts capables de vous faire ce genre de vente, ça veut dire, écoutez, attention, alerte rouge, ça clignote, cet individu est en train de perdre la boussole.
D'autant qu'il y a un marché derrière qui est... Voilà, c'est une question d'argent derrière.
Il y a quand même de l'argent, oui. Il y a quand même de l'argent. J'avais l'habitude de donner parfois la performance, la première année en 46 du bouquin du docteur Knock. C'est vrai que quand on est sociologue, 450 000 exemplaires vendus la première année, bon, waouh.
Ça fait rêver.
C'est mieux que le Goncourt, quoi. C'est... Non, mais vraiment, ça y va. C'est impressionnant. Vous avez un marché du conseil qui est tout à fait colossal. Hein. Et puis, il n'y a pas que Knock. Hein. Il y en a eu des dizaines après lui. Et puis, c'est même une entreprise avec Madame Laurence Pernoud, enfin, vous voyez, même mort, on continue de faire de l'argent avec le conseil. Non, mais c'est tout de même impressionnant.
Alors, l'État par rapport à ça, alors, est-ce qu'il a des leviers d'action pour peser? Parce que...
Alors, c'est exact. On est parti de là en disant la parentalité, un néologisme, il surgit. Il essaye de dire quelque chose d'un problème qui est à la fois un problème individuel ressenti par des parents dans une incertitude de modèle. Moi, cette hypothèse, je ne la suis pas. Je pense qu'il y a surtout une montée en force d'une thématique qui est des pouvoirs publics qui se préoccupent du rôle que les parents doivent assumer parce qu'ils ne sont en effet pas substituables. J'irai même plus loin. Je pense que l'État se dit, tant qu'ils feront le boulot, on n'aura pas la facture. Et c'est ce qui est émergé aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler d'une expression qui fait florès chez tous les hauts fonctionnaires d'Europe et en France et de Navarre, qui s'appelle l'investissement social. L'investissement social est une notion qui a été portée par un prix Nobel d'économie américain qui s'appelle Ekman en 2000, le prix Nobel j'entends, et qui signifie d'une certaine façon que plus tôt vous investissez de l'argent public dans l'accompagnement des enfants très jeunes, plus vous allez épargner de la dépense 20 ans plus tard.
C'est rentable.
C'est très rentable. Le rapport a été économétrisé. C'est à peu près 1 dollar investi, 7 dollars de dépenses évitées dans 20 ans. Donc évidemment, un rendement comme celui-là, il n'y a pas un décideur public qui n'est pas capable de le comprendre et de trouver qu'il faut faire quelque chose. Alors, du côté positif, je suis normand, hein, pardonnez-moi, du côté positif, il y a en effet une défense de l'investissement public dans des politiques publiques destinées à l'enfance et même à la protection sociale. Autrement dit, la dépense de protection sociale n'est pas une dépense, elle est un investissement. Du côté moins positif, voire même négatif, il y a une sorte de solidarité de banquier qui dit, en fait, si vous voulez, je dépense, mais, je vais ramasser à terme. On se demande où est le social. C'est-à-dire, si on mettait investissement social au sens d'investissement dans du bien-être, on aura un autre indicateur que de la dépense évitée. On dirait, ma population va mieux parce qu'elle va mieux, tatati, tatata. Et c'est là où on voit, au fond, un dilemme hein, qu'il y a derrière le soutien à la parentalité. Qu'est-ce que c'est que le soutien à la parentalité? C'est sans doute essayer de créer les conditions pour que tous les parents soient soutenus dans leur travail éducatif et de soins.
Oui, mais ça, c'est en fonction quand même bien de normes. On est en 2018, on n'est pas en 1950, on n'est pas en 1930 et tout. Donc, en quelques phrases... Hélas, le temps presse maintenant.
Oui.
Qu'est-ce qu'on leur demande aux parents?
Alors, on leur demande...
Même si c'est très caricatural, effectivement, mais...
On leur demande, en effet, d'être enveloppant. On leur demande d'épauler et de soutenir leur enfant dans leurs apprentissages. Et on leur demande pas la même chose dans tous les pays d'Europe. Il y a des pays dans lesquels on applique des programmes parce que le marché a généré des programmes qu'on appelle fondés sur des preuves, evidence-based, et fondés sur des comportements qui, d'une certaine manière, sont des programmes d'éducation des parents où on va aller jusqu'à la prescription précise, situation par situation.
Dans la
vie quotidienne. Votre enfant de 2 ans est dans sa chaise, il ne veut pas manger, il a renversé l'assiette, vous perdez patience, qu'est-ce qui va se passer, etc. Comment vous en sortez-vous? Et là, on aura une prescription en disant, vous rompez le contact visuel avec l'enfant, donc vous ne le regardez plus, il n'existe plus pour vous. Et quand il reprendra un comportement approprié, alors vous rétablirez le contact visuel et il va réaliser qu'en effet, s'il fait ça, ça s'arrange.
Et ça, ce sont des prescriptions d'État.
Non, ce sont des prescriptions de programmes qui sont des produits marchands labellisés avec qui sont vendus et que les collectivités peuvent acheter.
D'accord, ça passe quand même par la puissance publique, les dispositifs d'action publique.
Ils peuvent passer ou ne pas passer, puisqu'ils peuvent pénétrer dans des pays dans lesquels ils ne sont achetés que par des associations ou des prescripteurs marchands. Donc, dans un certain nombre d'États, aux Pays-Bas, on a utilisé certains de ces programmes et on les a fait acheter par des collectivités. Donc vous voyez que ça va jusque, ça va jusque là, c'est-à-dire de la prescription comportementale. Et puis, d'une certaine façon, je crois que le dilemme que vous pointez, il est là. C'est-à-dire, en fait, qui vise-t-on ? Et d'une certaine manière, on a là une très profonde ambiguïté. On vise tous les parents. Nous voulons soutenir tous les parents à réaliser leurs tâches éducatives et de soins. Tous. Et en même temps, nous visons tous les parents qui sont à problème. Et la réalité, évidemment, c'est que ce sont ces parents à problème, qui sont volontaires ou qui ne le sont pas, qui vont être ciblés par ce type de programme ou ces types d'interventions. Donc il ne faut quand même pas trop se faire d'illusions. Il y a, on revient à vos enjeux de lutte. Qui visez-vous, etc. Et je pense que là, on pourrait rentrer longuement dans le détail en voyant que les professionnels de la famille de l'enfance, de la petite enfance, de l'adolescence, etc., sont tous lucides de cette espèce de dissonance. Est-ce que c'est universel pour tous les parents ? Est-ce que c'est ciblé pour ceux qui posent problème ? Et ils jouent avec ça eux-mêmes en disant est-ce que nous adhérons à ces programmes evidence-based ? Pour une part, oui, car c'est un confort, plutôt que de bricoler avec chacun dans une forme de clinique du conseil aux parents. On a là un protocole standardisé, ça aide, vous voyez ? Et donc, ils ont un peu ce dilemme. Et en même temps, ils disent, mais ce sont des normes qui sont en plus importées d'ailleurs, qui sont décontextualisées. Il y a des contextes, rendez-vous compte. Est-ce que dans tous les milieux sociaux, on a la même conception de son rôle parental ? Non. Est-ce que selon vos trajectoires migratoires et vos pays d'origine, vous avez les mêmes conceptions du rôle de parent ? Pas du tout. Est-ce que derrière le parent, en fait, il y a des pères et des mères et c'est pas la même chose ? Évidemment. Les parents, ce sont des. On devrait parler de maternalité et de paternalité plutôt que de parentalité, parce que on le sait, les publics qui sont accueillis, en plus, sont principalement des mères, évidemment. Hein, et on continue de faire comme si.
Donc là, on est vraiment sur des problématiques à la Foucault, sur la gouvernementalité des conduites. C'est-à-dire comment est-ce que toute une série d'institutions vont soit s'articuler, soit se concurrencer pour gérer la façon d'être des parents avec leurs enfants qui relèvent en principe de l'intime ou du privé.
C'est d'ailleurs très intéressant de voir que cette problématique, y compris de lanceurs d'alerte, de construction des problèmes publics, de panique morale, est extrêmement relayée dans les pays anglo. Hein, c'est en Angleterre qu'on trouve les courants, au fond, post-foucauldiens les plus développés par rapport aux nôtres. Et pour une bonne raison, c'est qu'ils ont affaire à des prescriptions d'une plus grande brutalité. C'est vraiment, vraiment très sérieux ce qui se passe là-bas.
L'opposition catholique-protestant, elle est structurante pour comprendre un petit peu l'Europe de la parentalité ?
Elle peut en effet l'être quand on voit qu'en Europe du Nord, etc., on a aussi utilisé un certain nombre de ces programmes, que la santé publique a été le levier par lequel ces interventions sont venues. Je ne voudrais pas en même temps laisser penser qu'il suffit d'être contre ces programmes pour avoir trouvé la bonne réponse. C'est plutôt, je préfère cette idée d'enjeu de lutte, hein, d'essayer de véritablement continuer de construire un point de vue critique. Par exemple, dans la chaire que j'occupe, je me préoccupe beaucoup de cette question du bien-être, parce que cette notion de bien-être, encore une fois, c'est un retour de l'histoire, hein. Ça n'est pas la première fois. D'ailleurs, le welfare, c'est exactement ce que veut dire, au fond, un État qui est promoteur du bien-être, c'est ça. Cette notion de bien-être est un enjeu de lutte, parce qu'on ne sait pas comment le mesurer. On a des indicateurs objectifs, c'est par exemple l'espérance de vie, par exemple l'état de santé ou la morbidité, par exemple les pathologies, etc. Ou bien le niveau socio-économique. Et puis il y a des indicateurs subjectifs, c'est-à-dire si je vous demande si vous êtes satisfait de votre vie, qu'est-ce que vous répondez ? C'est ça. Et on compare, et on compare. Et en ce moment, nous avons une espèce de regain formidable de production de données internationales sur quels sont les pays où il fait bon vivre, vous voyez ? Est-ce qu'on est dans un pays où il fait bon vivre ? Et ce miroir est un miroir dans lequel nous nous regardons tous parce que les médias nous le renvoient. On vit bien à Rennes. Est-ce qu'on vit mieux à Rennes ? Vous voyez, etc. Cette obsession du bien-être peut générer exactement le problème en même temps qu'il cherche à le résoudre, puisque on a de la prescription derrière.
Oui, le décalage entre le subjectif et l'objectif, il est très évident dans le fait que, par exemple, du côté des élites sociales, on va avoir une très grande réflexivité sur comment être un bon parent qui peut déboucher sur des formes de quasiment d'angoisse, comme on disait tout à l'heure, alors même qu'en fait on coche toutes les cases, et dans des milieux favorisés, on va pas être particulièrement soucieux de la parentalité, où on a d'autres problèmes à régler, et du coup, est-ce que là du coup c'est pas l'État qui va plutôt être dans des mécanismes de surveillance de...
Tout à fait. Ça, je pense qu'on a affaire à ça, et c'est vrai qu'on commence à être de plus en plus sensible à cette préoccupation des parents inquiets du côté de l'éthos de couche moyenne éduquée et favorisée, autour et à propos en France de la question scolaire. C'est-à-dire on a des indicateurs qui montrent qu'il y a un certain nombre de pays où cette question scolaire est très envahissante dans les relations parents-enfants. La France est un de ces pays. On pourrait par image dire, au fond, en dehors de la question scolaire, il n'y a pas de communication parent-enfant. Comment s'est passée ta journée ? Sous titrage à l'école, qu'est-ce qui s'est passé ? As-tu eu un contrôle ? Ça s'est bien passé ? Au grosso modo, quelle note tu penses tu vas avoir ? Et puis contrôle en temps réel, vérification au moment de la sortie de la note, note de l'élève, moyenne de la classe, écart type. Et on pourrait dire, on a là quelque chose comme une sorte de gangrène, et c'est pour ça qu'on parle dans beaucoup des pays à fort capital économique des parents hélicoptères, hein, de l'overparenting, comme disent les anglos, hein. De l'overparenting, c'est-à-dire des parents qui sont tout le temps dans le contrôle de ce que fait l'enfant. Non seulement il a un planning au cordeau, à la seconde, à la minute, il est suivi, on met une puce dans son blouson, on sait où il est, et on veut qu'il soit occupé, et qu'il accumule du capital. Il est un peu musicien, il fait de la lecture, il emmène les bons romans, enfin, vous voyez, cette espèce d'obsession où, à un moment donné, ces gens finissent par se dire « Oh là là, mais j'en fais trop ». Quand ils sont allés tellement loin dans le trop, qu'ils sont obligés d'admettre qu'ils sont en train de cornaquer leur gamin comme on cornaquerait, je ne sais pas. C'est de l'élevage de cheval de course, par exemple. Vous voyez, c'est ça l'image.
Mais l'émergence et l'importance du terme parent d'élève. Les gens, ce n'est plus des parents, c'est des parents d'élèves. Il y a ça. Ouais. Sur cette communication parent-ado, je crois que ça fait partie de vos pistes de recherche. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors, pour dire ça très vite, il y a une enquête qui est répétée dans toute l'Europe, l'Europe au sens de l'OMS.
L'Organisation mondiale de la santé.
Voilà, absolument, l'Organisation mondiale de la santé. Et l'enquête s'intitule, l'acronyme c'est HBSC, à ne pas confondre avec la banque, pour Health Behavior des enfants à l'école, le comportement de santé des enfants à l'école. Dans cette enquête, il y a une question qui est très trouble pour la France, c'est à propos de la communication parent-ado. C'est une question qu'on formule à peu près comme ceci. Est-ce que tu estimes, on interroge les enfants à 11, 13 et 15 ans, qu'il est facile de parler des sujets qui te préoccupent, des sujets importants, à ton père, à ta mère ou à ton meilleur copain ou copine dans ta classe. Et là, nous sommes dans un classement qui, en effet, compare des pourcentages de réponses très faciles, faciles, pas très faciles, difficiles, très difficiles. Nous sommes 40e sur 40 en France. Donc là, il y a un truc. Mais on ne sait pas ce que sont les sujets importants et on ne sait pas pourquoi, diable, les ados français ont plutôt tendance à estimer qu'il n'est pas facile de parler des sujets qui les préoccupent avec leur père ou avec leur mère. Donc là, il faut aller au-delà du chiffre, et là, c'est en effet ce qu'on essaie de faire en comparant des pays avec lesquels la comparabilité est à peu près assurée, où on voit ce que sont, au fond, non seulement les cursus scolaires, les moments clés du cursus scolaire où on sait qu'on est en train de fabriquer le destin scolaire de notre enfant. Parfois, c'est dans la transition primaire-secondaire. Pour nous, évidemment, on a Parcoursup qui nous dit que là, il y a quand même un moment où il faut qu'on regarde avec beaucoup de précision en première et et en terminale ce qui va se passer, parce qu'après, quand même, ça va se jouer. Donc, on compare ça, on compare les réponses publiques.
Donc
et
vous,
on
essaie vous, de vous voir... Allez, vous allez travailler
oui.
Combien de temps, combien de pays, combien de...
Alors, on a choisi 5 pays qui sont plus ou moins hauts dans l'échelle. Les Pays-Bas en haut, au milieu Angleterre, Portugal,
oui.
Et en bas Italie, France.
D'accord.
Et on compare qualitativement des jeunes qu'on va sélectionner, garçons, filles, dans des milieux socio-économiques et contrôlés d'une certaine façon. Et on va essayer de comprendre ce que sont ces sujets importants pour les uns et pour les autres, ce que disent le père et la mère, ouais. Des attentes pour le futur de leur enfant. On va essayer de mesurer quelque chose qui pourrait s'appeler le gap entre attente parentale, attente père, attente mère,
oui.
Attente du jeune sur son propre futur. Et d'accord. Plus ce gap est important, on peut postuler que plus la communication est compliquée.
D'accord.
On arrive au terme de cet entretien passionnant. Peut-être une question un peu de méthode. On est sur des objets très, très intimes. Hein. On a parlé des relations parents-enfants. Voilà, on est sur les micro-interactions de la vie quotidienne. Et en même temps, la perspective qui est la vôtre est une perspective de comparaison à une échelle très large entre pays, avec des enquêtes par questionnaire. Est-ce qu'il n'y a pas, pas seulement, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de gagner en largeur et de perdre un peu, enfin comment on peut être sur les deux,
alors,
la profondeur et
c'est
la,
deux
et
chantiers
la, et la
que moi j'essaye de tenir depuis toujours en parallèle, c'est-à-dire il y a un volet qui m'intéresse beaucoup, c'est évidemment la façon dont on construit le problème, c'est-à-dire quelle est la contribution à la fois des experts, des médias, parce qu'on pourrait parler longuement du rôle que jouent les médias, et des acteurs publics pour identifier ce à quoi il faut répondre. Ça, c'est un volet assez macro dans lequel on peut vraiment comparer, en effet, des manières dont le problème est structuré, posé et monte sur les agendas dans différents pays, dans différents contextes. Et puis, il y a le niveau micro, où là, il faut... où ce sont au fond des configurations qui sont locales, dans lesquelles on met en œuvre un certain nombre de services, dans lesquelles on fournit des réponses à des échelles territoriales limitées qu'on peut observer finement. Et puis il y a le niveau micro, en effet, des interactions parents-enfants, où là ce qu'il faut contrôler, bien entendu, c'est le gap entre ce qu'on connaît des enquêtes extensives, quantitatives, grandes enquêtes, OCDE, HBSC, OMS, et j'en ai beaucoup comme ça que j'analyse secondairement ces données. J'identifie des questions auxquelles on ne répond pas finalement, on ne comprend pas le processus. Et là, d'utiliser ces questions qui restent pour faire du quali. Et du quali où, en effet, on parle de l'intime. Oui, mais c'est un intime auquel on s'expose assez facilement parce qu'il est question, par exemple, de réfléchir pour un ado comme père ou comme mère dans un entretien séparé sur ce qu'on estime être les enjeux de son futur, la préoccupation de ce qui va advenir. Réfléchir au monde dans lequel il entre. Essayer de parler de ses craintes et de voir si ce sont les craintes des parents qui, au fond, débordent sur les jeunes, ou ce sont les craintes des jeunes qui, en fond, sont préservées parce que ce ne sont pas les mêmes. Voyez. Donc là, on peut, je crois, travailler sur toutes les échelles. Alors effectivement, c'est des chantiers qu'on ne fait pas en un jour. Il faut avoir une enquête là-dessus, puis une enquête là-dessus, puis une enquête. Et dans la chaire, ce que je fais, c'est que je fais surtout des bilans de littérature. Comment se posent les problèmes ? Lire des dizaines et des dizaines et des centaines de bouquins et de milliers d'articles qu'il faut absorber pour essayer d'avoir une idée de comment ça s'organise ici et là. Comment ça s'exporte ? Comment ça s'importe ? Et puis de l'autre côté, évidemment, les enquêtes quantitatives. Et puis enfin, les enquêtes qualis, qui est, moi, ma pente naturelle. J'aime beaucoup entendre des récits de la part de personnes qui pensent leur présent. Après, évidemment, la comparabilité est toujours un questionnement. Mais il vaut mieux avoir des questions à la fin que des réponses complètement fermées.
Claude Martin, on vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous avez publié « Être un bon parent, une injonction contemporaine » aux presses de l'EHESP. C'était en 2014, je crois, et ça coûte 25 euros. Et autrement, cette année, un rapport pour la CNAF, Caisse Nationale des Allocations Familiales, accompagner les parents dans leur travail éducatif et de soins. C'est publié à la Documentation Française. Ça coûte 14 euros. Vous nous tiendrez au courant de la suite de vos travaux.
Volontiers.
Merci infiniment. Merci Christian Lebar. Merci Lucie Loi, notre réalisatrice. et nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour une autre émission de Chercheurs en Ville.
Merci.